Quand vous frappez un coup droit, vous faites. Quand vous balancez un revers, vous faites. Ouais. Et quand vous jouissez, vous faites. Alors vous avez le numéro de Parlon Péloche. En parlons Péloche, aujourd'hui il sera question des films de tennis. Le film de tennis est un film dont l'intrigue est centrée autour du tennis, ce sport de raquette qui oppose soit deux joueurs, on parle alors de simple, soit quatre joueurs qui forment des équipes de deux, alors on parle de double. Les joueurs utilisent une raquette cordée verticalement et horizontalement en tamis à une tension variant avec la puissance ou l'effet que l'on veut obtenir. Cette raquette dont les matériaux peuvent varier sert à frapper une balle en caoutchouc remplie d'air et recouverte de feutre. Le but du jeu est de frapper la balle de telle sorte que l'adversaire ne puisse la remettre dans les limites du terrain, soit en marquant le point, en mettant l'adversaire hors de portée de la balle, soit en l'obligeant à commettre une faute si la balle ne retombe pas dans les limites du court ou si elle ne passe pas le filet. Mais ça, c'est ce que nous dit Wikipédia. Oh bah je sais pas, il y a peut-être des auditeurs qui connaissent pas le tennis. De notre côté, autour de la table, nous allons tenter de définir ce que nous attendons d'un film de tennis. Nous nous demanderons également ce qu'est devenu ce genre en donnant nos impressions sur trois films de tennis sortis sur ces dernières années. Et c'est après avoir évoqué nos films de tennis de référence qu'Antoine nous proposera sa chronique durant laquelle je ne pourrai malheureusement pas dire silence s'il vous plaît.
Je suis prêt.
Mais pour parler des films de tennis autour de la table, vous le connaissez sûrement car il a réalisé un film mettant en scène des Jamaïcains s'entraînant dur pour réussir à participer à Roland-Garros, un film intitulé Rasta Racket. C'est Tristan, bonsoir Tristan.
Bonsoir Thomas.
Et enfin vous le connaissez sûrement car le gros relou qui crie allez dans les stades. C'est cette personne, c'est Antoine. Bonsoir Antoine.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Mais en plus c'est vrai.
Bah j'en suis sûr.
Mais tu sais très bien que je suis exactement le genre de mec. Mais je vais tout le temps faire le premier applause.
Bah oui, je connais.
Et tout le temps chauffer la salle.
Je connais la personne, je l'appelle la pratique. Et bien voilà.
Allez Gaël.
Joe Will. Et bien voilà, sortez vos raquettes messieurs. Et on part pour la première séquence de l'émission. Le tas de beaux yeux, tu sais. Dans le tas de beaux yeux, tu sais, nous allons définir ce que nous attendons d'un film de tennis pour savoir quelles sont nos motivations, qu'est-ce qui nous pousse à aller voir ça au cinéma. Je l'ai dit dans l'introduction, le film de tennis est un objet cinématographique pour lequel le sport tennis est placé au cœur de l'intrigue. Donc, on avait initié cette série sur les sports de raquettes avec le film de ping-pong, où on fera normalement qui a très bien marché comme épisode. On fera peut-être le film de squash, de pelote basque, on va chercher vers où aller, mais il y a quelque chose d'intéressant avec ça, c'est qu'au-delà de la blagoune qu'on fait, c'est qu'on a réussi à trouver trois films, des films qui ont un intérêt relatif, mais tous un intérêt, et pour moi, on peut se poser une question qui est intéressante, c'est de se dire, est-ce que ce sport qui crée énormément de tension quand on le regarde, est-ce qu'il est, cette tension est capable d'être portée au cinéma et jusqu'à quel point ça peut en faire des bons films? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Donc derrière toutes ces petites farandoles de blagounes, on va parler vraiment cinéma.
Cinoche.
Antoine, qu'est-ce que tu attends d'un film de tennis?
Alors, j'attends beaucoup de choses. J'attends des chaises hautes.
Ouais.
J'attends des gens qui se font des torticolis.
Ouais.
À force de regarder à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite.
Mais t'as une attelle aujourd'hui, hein, à cause de la sélection. Ouais,
j'ai une énorme minerve.
Ouais. Je dis attelle, c'est pas le bon terme. Minerve, pardon.
Non, y a pas de souci. Je suis là pour remettre l'église au milieu du village. Bah balle au milieu du cours.
Oh! Et égalité.
J'attends des belles raquettes, j'attends des beaux joueurs, des beaux shorties. J'attends avant tout de la compétition parce que c'est un milieu extrêmement compétitif, le tennis. Donc c'est un sport tellement exigeant où en fait on joue sur les erreurs de l'adversaire mais aussi ses propres erreurs. Donc en fait on est en constante confrontation avec soi-même autant qu'avec les autres parce qu'on est son pire ennemi au tennis. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce genre de film, c'est que bah au final c'est un conflit très interne.
À fond, et tu comme dans n'importe quel sport de haut niveau, tu sacrifies un peu ta vie au nom là du tennis, et du coup c'est un mélange entre sport et spectacle. Donc il y a énormément d'attentes sur un tennisman et comme tu le dis, ou tenniswoman, et comme tu le dis, bah clairement s'intéresser au tennis et au sport dans un film, c'est s'intéresser à la psychologie humaine. C'est ça qu'on verra dans notre sélection aujourd'hui. Tristan, qu'est-ce que t'attends d'un film de tennis?
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Antoine. moi je rajouterais d'autres choses, notamment au niveau des coups au tennis. Moi je veux du coup droit.
Ouais.
Du revers.
Du smash.
Du service. On y vient.
On y vient, pardon, excuse-moi, j'ai un peu...
Il y aura du service.
Ouais.
Ouais.
Du lob de temps en temps. Ouais. Et ça marche pas tous les coups.
Non.
Du smash, bien sûr.
Ouais.
De l'amorti.
Ok. Ouais.
De la volée et de la demi-volée.
Putain, ouais, la demi-volée, c'est dur à avoir. Hein.
C'est un peu... C'est... Ouais, ouais. C'est
dur à capter à l'écran, en tout cas, ça, c'est clair.
Mais mais au-delà du sport, c'est vrai que quand tu vois des matchs de tennis au cinéma, dans un film, en fait, tu vois pas juste un, tu vois pas être juste une compétition. En fait, tu vois aussi les problèmes de chaque personnage, parce que chaque personnage va venir sur le terrain avec ses propres problèmes. Vous l'avez dit, c'est un problème. Enfin, c'est une guerre contre lui-même et c'est son, il est son pire ennemi. Et c'est exactement ça. Mmh. Et...
Mais il y a quelque chose, une valeur de twist dans le tennis qui arrive vraiment dans le vrai tennis. Je vais caricaturer énormément, mais il peut y avoir 6-0, 6-0, 5-0, 40-0. Et si à ce moment-là, t'as 3 balles de match et tu vas gagner et que tu perds le point, eh ben, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du tennis que le match change complètement. Donc la valeur psychologique est hyper importante, surtout qu'on est seul. Hein. Clairement, on a un entraîneur qui nous regarde et tout, mais on peut pas le consulter pendant les matchs, donc on est vraiment seul.
Oui,
et
puis c'est quand même une épreuve sportive qui est extrêmement longue. Je veux dire, on est sur un effort physique qui peut durer plusieurs heures d'affilée.
Jours, on le verra dans, dans la sélection.
Voire plusieurs jours, et qui demande du coup une concentration intense, mentale, physique pure dans l'exercice, mais mentale aussi parce que t'as ton propre moral et t'as aussi où est-ce que tu renvoies la balle, comment tu la renvoies, comment tu joues ton adversaire.
Mais au-delà de la compétition, c'est aussi un symbole de camaraderie. Quand il y a du tennis dans des films, c'est souvent les copains qui jouent au tennis le dimanche entre eux, les médecins, enfin c'est...
Parce que là, c'est vrai qu'on va on va beaucoup s'intéresser à la version professionnelle du sport. C'est la sélection du jour qui veut ça. Mais on verra que dans nos références, on peut avoir justement le sport entre amis et d'amitié. Il en est question également dans le sport professionnel parce qu'on est quand même devant des gens qui sont adversaires sur le court, mais qui passent leur vie ensemble. Les tennisman, tenniswoman sont toujours sur les mêmes événements et ils font que se côtoyer. Et une fois qu'ils sont sur le terrain, il faut mettre ça de côté. Du coup, ça crée en dehors du terrain des ennemis, des amis, et sur le terrain, on a, comment dire, un duel homme à homme, femme à femme, athlète à athlète. Donc tout ça, c'est énormément d'ingrédients qui sont très proches de ce que peut apporter un thriller, en tout cas beaucoup de suspense, de tension. Mais est-ce que, étant donné qu'on retrouve ça dans la vraie vie, est-ce qu'on est capable de le retrouver au cinéma? Encore une fois, je le répète, c'est la question qu'on se posera tout au long de cette émission. Et comment on va se la poser, cette question? On va se la poser à travers 3 films. Dans quelle séquence, Antoine?
Le nom de Zeus.
Et on passe au nom de Zeus.
Nom de Zeus.
Le nom de Zeus, c'est le moment de l'émission. On fait le tour d'horizon de 3 films de tennis sortis sur ces dernières années pour voir ce qu'est devenu ce genre aujourd'hui. On écoute tout de suite ce à quoi nous allons nous intéresser ce soir.
Le phénomène auquel on assiste est unique. Aujourd'hui, les tennismen sont comme des rockstars. Et la rivalité qu'il y a entre Borg et John oblige les gens à se demander qui suis-je? Le gentleman? Ou le rebelle.
Vous savez, votre fils, il joue vraiment très bien.
Ça, c'est bien, Hugo, c'est bien, ça.
Oh là là, l'enchaînement !
Allez, on y va !
La nature est injuste, ce jeune homme a un cœur rare. Il va être inusable.
Il est bourré de superstitions. Il a des rituels. Je te le dis, mec, pour eux, c'est une putain de religion.
Je pense que je suis, comme tout le monde, je suis pas une machine.
Putain ! On dit que c'est un iceberg, mais en réalité, c'est un volcan. Il garde tout en lui. Jusqu'à ce que ça pète.
Before I get started, I just want to say... I'm not going to apologize for the incidents in yesterday's match. What happens between 2 or 3 people on the Wimbledon courts is between them.
Et vous l'avez entendu, aujourd'hui, il sera question de Björg McEnroe, de 7 Days in Hell et de Terre battue. On commence donc par Björg McEnroe de Janus.
Björg, c'est les gâteaux. Borg, c'est le joueur.
En fait, il s'appelle Björn Borg.
Björn Borg.
Donc c'est Borg.
Björg.
J'ai dit Björg.
T'as dit Björg.
Mais j'adore ces gâteaux.
Ah pardon, ouais, je suis désolé. En plus, le tennis, c'est mon dada. Je l'ai pas dit, j'ai pratiqué 7 ans de tennis dans ma vie.
C'est vrai?
Ouais.
Ça se voit pas.
Non. J'ai jamais été très fort, mais j'en ai fait pendant 7 ans avec Jean-Sébastien au tennis club de Fleurbaix.
J'en sais,
voilà. Qui était connu sous le sobriquet J'en sais.
Comme quoi, parfois, ne persévérez pas. Arrêtez.
Non, moi, j'ai pas touché les étoiles, mais je me suis. On commence donc par
pas tout cher.
Borg McEnroe de Janus Mess Pedersen, qu'on va appeler Janus Mess, Borg McEnroe est un film sur une des plus grandes icônes du monde, Björn Borg, et son principal rival, le jeune et talentueux John McEnroe, ainsi que sur leur duel légendaire durant le tournoi de Wimbledon de 1980. C'est l'histoire de deux hommes qui ont changé la face du tennis et sont entrés dans la légende, mais aussi du prix qu'ils ont eu à payer. Ma question, anecdote, qui interprète Björn Borg jeune dans le film? Parce que on
c'est
voit Björn Borg.
C'est le frère de Borg, c'est... Non, je crois que je l'ai vu dans le générique à la fin, c'était...
De 9 à 13 ans, hein, parce qu'il y a ouais, 3 Björn Borg dans le film.
Enfin, c'est quelqu'un qui s'appelle Borg, je crois que c'est Léo Borg.
Léo Borg, c'est Léo ça. Borg. Ouais. C'est le fils de Björn Borg.
C'est le fils
tout
de Björn
Borg. Tout simplement, voilà. Okay. Parce qu'il se trouve que son fils s'est amené à peut-être vivre la même carrière que son père, parce qu'il, à 13 ans, il a participé au prestigieux tournoi des Petits As, où il a été éliminé en 8e de finale.
Prestigieux.
Oh, si, Petits As, c'est ce que Nadal Gasquet faisait tout le temps en finale tous les ans, quoi. C'est le tournoi des jeunes du tennis. Bah, je m'y connais, ouais, j'ai fait 7 ans de tennis avec Jean-Cé.
Tu rêvais de...
Ah, le tournoi des Petits As, ouais, ouais.
Moi, j'ai ramassé les balles là-bas.
Ouais. Ah, oh. Non, moi, j'étais très très loin du tournoi des Petits As, mais on verra si Léo Borg va atteindre la. Hein, on verra.
Là.
Ma question, est-ce que vous avez aimé ce film? Moi, je dois vous avouer, je vais juste donner mon avis rapidement,
oui,
c'est
prie,
que il se trouve que ce film donc n'a pas été très distribué en France. À la base, au moment où le projet est sorti, il m'excitait un peu, j'avais envie de le voir, je trouvais que le casting était sympa.
Il y a Shia LaBeouf.
Shia LaBeouf, et l'autre acteur, je le connaissais pas, je dois avouer. Mais voilà, ce film, pour moi, je suis passé à côté parce qu'il est pas... quasi pas sorti en salle en France, et je l'ai regardé pour le podcast en pensant voir un film banal, et au final j'étais complètement charmé par ce film. J'expliquais hors antenne que dans ce film on a une espèce de réalisation très très simple, très très classique à la Ron Howard, mais du coup diablement efficace. On suit le destin de deux hommes qui sur le papier tout oppose, et au final on se rend compte, comme Antoine le disait un peu, étant donné qu'ils sont rassemblés par le tennis et par la pression, finalement c'est des hommes qui ont énormément de choses en commun, et ça on s'en rend compte tout au long du film, avec en point d'orgue cette finale où, je le disais, retranscrire la tension. Bah déjà la finale dans les faits était incroyable, mais au cinéma je trouve qu'on touche du doigt, alors c'est pas exactement comme voir un match de tennis en live, et de toute façon c'est pas ce qu'on demande au cinéma, mais on touche du doigt certains moments de tension, alors qu'on a deux acteurs qui globalement sont pas tennisman. Donc il y a un travail énorme de mise en scène pour rendre le tout crédible, et c'est crédible pour moi dans deux aspects: la retranscription de la tension et la retranscription de l'époque. Et en ça, je trouve que le film est hyper réussi. Antoine.
Pour moi, c'est un film, effectivement, qui est comme point d'orgue, effectivement, ce match de Wimbledon entre ces deux géants du tennis. Mais c'est surtout...
Le film atteint son paroxysme.
Exactement, son pinacle. C'est-à-dire que...
C'est dans le synopsis, hein, je suis en train de le dire.
J'ai vraiment le sentiment qu'au-delà de ça, ce qu'il veut nous montrer, c'est comment ces hommes en sont arrivés là. Quels sacrifices ils ont dû faire pour y arriver, et comment ils se sont construits humainement et physiquement, et comment le regard du monde, c'est-à-dire les gens qui les observent, les gens qui les suivent, qui les admirent, sont totalement à côté de la plaque de leur démon interne, tu vois. C'est-à-dire que eux, c'est des sportifs, des compétiteurs, ils ont que ça dans leur vie, ils se battent pour ça constamment, pour être le meilleur, parce qu'ils voient pas comment faire autrement. Certes, il y en a un qui est plus calme, et l'autre qui est effectivement plutôt en train d'engueuler les arbitres, ainsi de suite, mais... Qu'est-ce qui les a poussés à chacun être dans ce comportement-là? Et je trouve que c'est extrêmement bien retranscrit, parce que du coup, on s'attache à chaque personnage, c'est très bien réalisé, on a des mélanges de flashbacks à chacun.
Ouais, c'est un espèce de double biopic.
C'est ça, c'est exactement ça, c'est un double biopic, on a deux carrières en parallèle qui se rejoignent sur un point d'orgue, et honnêtement, j'ai trouvé ça cool, j'ai vraiment trouvé ça cool. Le match à la fin, j'étais tenu en haleine. Honnêtement, j'ai été autant tenu à haleine que Battle of the Sexes, ouais, dont on a déjà parlé dans Pain en Péloche.
Ouais, sinon, on l'aurait mis dans la sélection.
Voilà,
mais...
quel match entre Billie Jean et Bobby. Ouais. Et du coup, je trouve que ça marche très très bien, parce qu'en fait, on sent les enjeux derrière. Et même si, j'avoue que je connaissais déjà le résultat des championnats de Wimbledon en 1980, j'étais incroyablement tendu, et j'ai vraiment cru à un moment que je me suis dit, ah vas-y, c'est inspiré de faits réels, ils vont se faire plaisir et ils vont changer le truc, mais non.
Moi je me souvenais plus du résultat final là pour Björn McEnroe, du coup j'étais à fond dedans, en me demandant vraiment changer.
Toi, tu le savais
pas. Sur
moi, je le savais.
J'ai mis 6-2, 6-2, 6-0.
Loupé. Je l'ai pas eu. Tu t'es quand même dit qu'ils n'allaient pas faire deux fois la même chose d'affilée. C'était fou.
Ouais.
Mais non, franchement, vraiment très bien, très cool. Et ça nous montre aussi un peu l'envers du décor de cette pression constante des joueurs professionnels, à savoir... bah qu'en fait c'est des outils publicitaires quoi.
Puis tout, ouais c'est ça exactement, puis tout paraît rose vu de l'extérieur, on passe notre temps à railler les champions français, en fait bah, on ouais. a beaucoup de champions de tennis français, mais c'est très facile de dire que Tsonga, que mon fils sont pas bons parce qu'ils gagnent pas des grands chelems, mais en fait...
Pendant que nous on n'est pas sur le terrain.
Voilà c'est ça, rien qu'à ce niveau là c'est énormément de pression, bah, oui. Avec du plaisir à côté, mais être un sportif de haut niveau... De base, c'est un peu, tu gagnes beaucoup d'argent dans certains sports, mais c'est un peu du sacrifice humain. Clairement, tu mets ta vie de côté. Certains le gèrent très bien, certains le gèrent plus difficilement. Et là, dans le film, on voit un peu les deux aspects.
Mais en tout cas, les séquences de jeu avaient l'air plutôt crédibles ouais. à l'image.
Non, puis c'est pas le même tennis qu'aujourd'hui. Hein. Clairement, c'est simple, c'est très rigolo le tennis parce qu'il y a encore peu de temps. Clairement, les tennismen avaient des raquettes pourries, quoi. Et c'est très récent, les raquettes hyper légères.
On privilégie la puissance, là, aujourd'hui.
Ouais, tout, puissance. Et puis, à côté de ça, tu t'es plus puissant, mais tu te trimbales pas un truc de 17 kilos dans les mains. C'est des trucs très légers. C'est plus le même sport, ça a beaucoup évolué.
T'as des tenues plus larges, t'as plus d'effets.
Les boyaux sont différents.
Enfin, c'est là où tu vois aussi l'évolution de la technologie. Là, tu vois, on est quand même sur un film qui dépeint des matchs des années 80. Moi, qui ai fait aussi du tennis dans ma jeunesse, dans les années 90... Les raquettes étaient déjà différentes.
Ouais,
on est 10 ans, 15 ans après, quoi. Donc
il y a eu vraiment un gap. Bah, tu regardes Yannick Noah qui gagne Roland Garros, il a une raquette pourrie. Bah, oui. C'est toujours ça. Si vous aimez, là, on parlait de double biopic. Il se trouve que dans le monde du sport, il y a eu plusieurs films justement basés sur cette structure. Je vais en citer quelques-uns. On a en Formule 1, on a Rush qui est sur justement le duo entre James Hunt versus Niki Lauda. On a le prodige pour les échecs avec Bobby Fischer contre Boris Spassky. Et évidemment, je finirai par celui-là. Le plus connu, les chariots de feu, où il y a Harold Abrahams versus Eric Liddell. Et j'ai pas pensé à Ali, avec Mohamed Ali versus ouais. Sonny Liston, parce qu'il n'y a pas que Mohamed Ali dans Ali. Donc c'est très très sympa cette thématique, et quelque part, il n'y a que le sport et le sport à duel. C'est pour ça qu'on va parler un jour des films de foot, hein, dans Parlons Péloche, mais ce ne sera pas exactement la même chose, parce que là, c'est des sports à duel, vraiment.
Le Mans 66 aussi, un peu.
Ouais, le Mans 66 pour le coup. Ouais.
Une dualité.
On s'attarde plus sur les marques que sur les hommes, mais exactement, on est dans, dans cette dualité. Et en fait, cinématographiquement, bah, c'est ce qu'on a dans énormément de films. Le combat final entre le méchant et le gentil. Là, il se trouve que bon, la
c'est du Rocky, on peut le dire.
Ouais. Bah pour le coup mais Rocky on prend un parti dans chaque film. Là sur Björn McEnroe, tu changes un peu de camp tout le temps, et comme pendant le match final en fait.
C'est là où c'est intéressant, c'est que la dualité elle est pas dans un David contre Goliath qu'on a habituellement au cinéma,
ouais,
tu vois, où t'as l'outsider qui va combattre en fait la structure qui est en place. C'est que on nous dépeint les deux personnages, c'est vraiment cet accompagnement des deux qui nous permet de comprendre que...
Mais c'est deux joueurs qui ont un côté antipathique aussi.
C'est ça, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts, tu fais avec. Il y en a un, effectivement, on dit qu'il est froid, calme, mais en fait non, c'est juste qu'il est vide.
Et l'autre, fait le vide sur le terrain.
Voilà, mais il fait le vide même dans sa vie personnelle, tu vois bien qu'il est pas bien.
Ouais,
il est pas bien, Björn Borg, enfin du moins ce qui est peint dans le film. Mais
en plus il y a quelque chose de particulier, c'est qu'à l'époque, et ça c'est bien montré dans le film, Borg était adulé, c'était vraiment la grosse star du tennis, et finalement qui aura arrêté sa carrière rapidement. Et McEnroe, aujourd'hui, les gens l'aiment bien, mais ils le détestaient parce qu'il était anti-sportif au possible, en
c'est
fait.
Positif.
C'était le Sardoche du tennis, quoi.
C'est un bon résumé, mais c'est exactement ça. Genre, à un moment, il se prend un point au tie-break, il dit « Mais c'était sûr, en fait !» Ma question...
C'est sûr.
Question, est-il possible de retranscrire la tension du tennis dans une péloche ? Et ça, c'est ma question, et j'ai commencé à aborder le sujet. Comment faire ? Quelles sont les recettes ? Là, pour ce film-là, je trouve que l'un des bons partis pris qui est fait, c'est qu'on accepte de passer du temps à montrer du tennis. C'est pas juste en fond, c'est qu'on se dit, on va focus sur
ça.
C'est
parce que les mecs savent pas faire quand ils montrent pas. Je pense que c'est très compliqué à filmer. Ouais. Il faut un bon réal, en fait, tout simplement.
Après, l'avantage du tennis aussi, c'est un sport avec des règles très simples, tu vois. Au final, c'est un immense rectangle dans lequel la balle doit retomber.
Ouais.
Donc,
j'ai dit au début de l'émission.
Oui, c'est
assez
ça.
Longuement.
Mais comme dans tout sport, en fait, dans Raging Bull, c'est
ouais, voilà,
le combat est génial, les combats sont géniaux parce que Scorsese sait faire et qu'il a des techniques pour filmer, qu'il a différents plans de caméra, c'est pas tout le temps le même. Enfin,
je me permettrai
très
une réflexion de dire que le combat, c'est un peu un cheat code, parce que bah, c'est de la boxe certes, mais de base, dans le cinéma, des combats, il y en a dans un film sur deux. Enfin, il y a des duels vraiment de combat. Le tennis, il y a une distance. C'est
ouais, mais tu donnes un coup
plutôt...
et t'attends qu'on te le rende. Ouais. Et du coup, il faut que la caméra puisse capter ça. Je pense
transcrire
très,
ça,
très
c'est vrai. C'est vrai.
Ouais, et dans le film, ils se permettent très fréquemment de faire des micro-ellipses de quelques points ou autres. Ils ne montent pas tous les points parce qu'il y en a tellement.
Bah oui.
Et c'est logique.
Ça serait imbouffable.
Mais en fait, c'est un peu comme un accent tonique, tu vois. C'est-à-dire que Björn Borg le dit très bien. Chaque point est important. Il faut jouer chaque point.
Ah, c'est la technique Nadal, ça.
Voilà, c'est la technique où tu gagnes en tu dis, tu accumules les points, tu n'accumules pas les jeux, pas les sets, tu n'accumules que les points. Et du coup, bah, en fait, pour lui, chaque point est important. Et tu vois, c'est ultra... En fait, ce qui m'a choqué et pris au trip, c'est... Tu vois la déception dans leurs yeux, dans leur comportement, dans leurs gestes, dans leur corpulence, dans leur façon de se mouvoir, quand ils perdent ou quand ils gagnent. Ne serait-ce qu'un seul point.
On va passer à un film qui a un tout autre genre. Il s'agit de 7 Days in Hell de Jake Szymanski. Alors là, on est sur un mockumentary, donc pour ceux qui ne savent pas, on fera un parlant-péloche dessus. Donc le mockumentary est un faux documentaire qui a pour but souvent de singer les codes du documentaire et aussi de singer le sujet qui va être dépeint dans ce documentaire. Le synopsis sur le gazon de Wimbledon, l'histoire incroyable d'un match de tennis qui va durer 7 jours. Voilà l'histoire, avec un casting un peu fou, notamment Andy Samberg qui porte complètement le film, hein, qui est magistral.
Qui porte tout.
Et ça dure 42 minutes seulement, mais on a choisi de le mettre quand même, de le traiter comme un long métrage, parce que on voit une autre facette du tennis au cinéma. Allez, ma petite question anecdote sur le film. Donc c'est un film qui a été diffusé sur HBO le jour de la sortie. Ce jour-là, c'était le 11 juillet 2015. Combien de personnes ont vu ce court-métrage ce jour-là? On va faire un tour de table en direct. Ouais. Combien se sont mis sur ce programme? Tristan? Donc c'est à la télé, non?
C'était soir, prime time?
C'était en prime time, oui. C'est aux États-Unis, non?
Ouais. 2 millions.
2 millions.
Ah, j'aurais monté à 4,5 millions, moi.
C'est 579 000 viewers, mais le nombre de chaînes, bon, il y a beaucoup d'habitants.
Oui,
c'est plutôt
HBO, je pense que c'est remarquable. Très très bien en général, ouais. Aux États-Unis après là.
Mais là, c'est plutôt remarquable, et c'est un film qui est très bien reçu par la critique, qui a beaucoup plu. Parce qu'il n'hésite pas de toute façon à aller loin. Tristan, est-ce que tu as aimé ce film?
Oui, c'est rigolo. Après, je connaissais pas du tout. Je pense que personne connaît, en fait, parce que ça, du coup, c'est sur OCS, mais personne l'a mis en avant. Je l'avais vu nulle part. Bon, c'est marrant. C'est vraiment assumé à 100%, quoi. Donc, ça va très très loin. Je pense qu'il faut pas regarder le trailer parce que ça
te
spoil un peu tout en fait, et au final ça dure que 40 minutes.
Ils ont fait un trailer
pour
un film de 40 minutes.
Oui.
Ouais.
Voilà.
Mais il y en a beaucoup de trop, quoi. Enfin, mais c'est absurde au possible. Le casting est dingue. Je sais pas comment ils leur ont vendu le truc en fait pour les amener là-dedans, mais non, c'est faut voir sans se renseigner, laissez-vous cueillir par ça.
Pour resituer, on a un peu un délire à la Borg McEnroe, parce que on a l'histoire d'une ancienne gloire du tennis, mais qui lui est arrivé des trucs un peu fous, quoi. C'est-à-dire qu'il est à deux doigts de gagner un tournoi, mais il se passe quelque chose d'assez extraordinaire qui fait qu'il quitte complètement le monde du tennis. Et il y a un petit délire à la Rocky, c'est que finalement ce mec décide de revenir sur les cours du tennis, tout ça parce que le nouveau jeune prodige a dit qu'il était le meilleur joueur de tennis de tous les temps, et ça fait mal au...
Il veut faire fermer son claque-merde.
Voilà, il veut faire fermer son claque-merde en disant ça, donc il retourne sur les cours pour ça, et il y a ce duel, donc au premier tour de Wimbledon, je crois, donc le grand favori au titre qui est anglais, face à cette ancienne gloire du tennis qui est apatride, hein, parce qu'il n'a pas tellement de parents, et donc on assiste aux coulisses de ce match, quoi. Antoine.
Moi j'adore ce genre de film totalement débile, qui s'assume totalement, qui en fait enchaîne vanne sur vanne, je veux dire il y a 3 vannes par seconde, quoi. Ça n'arrête jamais, ça a tout le temps dans la surenchère, et je vois à quel point ça peut être lourd, mais je trouve que c'est jamais trop gênant, ça va pas dans le moment gênant, ça va juste dans la débilité.
Il y a de la couille.
Mon dieu. Ouais, mais alors, oui, parce que le héros, à un moment, bon, micro spoil, mais il s'amuse à faire une marque il a fait carrière dans le vêtement où il met les couilles à l'air. Et moi, ça me bute de rire, quoi, cette image, avec le petit stylo qui tape en dessous.
Ouais, bref.
Il y a plein de choses. En fait, tout est débile, et même Kit Harington, qui joue très bien son rôle, donc qui en plus était vraiment au sommet, puisque ça y est, Game of Thrones marchait du tonnerre sur HBO. Donc voilà, Andy Samberg est venu le voir, il dit tiens, tu veux pas faire mon opposant? Il fait oui tout de suite parce que c'est Kit Harington, quoi, le mec est trop cool. Et trop drôle, ça joue trop bien le rôle effectivement de l'enfant qui est jamais, enfin voilà, il est devenu champion de tennis sans jamais être sorti de l'enfance, quoi. Et tout est tiré dans tous les sens, les potards sont à fond, tous les personnages sont exécrables. Et après, il y a quand même, moi, ce qui me fait le plus rire, c'est que bon, il y a beaucoup de gens du SNL aussi dans le film, mais au-delà de ça, c'est qu'ils ont vraiment.
Hein,
ouais. C'est vraiment ouais, parce qu'il y a énormément de face cam, il faut le dire. Hein,
oui,
de,
c'est ça.
Il y a beaucoup d'intervenants comme dans un documentaire, des pseudo spécialistes qui vont absolument tout justifier des trucs qui se passent sur le cours.
Et ça me fait mourir.
Des fois, c'est genre, tu vois, il se passe un truc de dingue sur le cours et ils disent, bah, on n'a rien dit parce que, bah voilà, on est anglais, donc. On dit pas, on respecte. C'est, et c'est juste ça la justification. Mais
on veut pas gêner, donc ouais. On n'en parle pas. Et je trouve ça marche tellement bien. Et puis ils ont quand même des gens comme Serena Williams et David Copperfield qui ont vraiment fait des trucs dedans.
Et McEnroe aussi. C'est vrai qu'il y a Serena Williams, c'est génial parce qu'en fait, donc dans l'histoire, et ça c'est pareil, ça fait vraiment partie du trip. C'est le frère adoptif de la famille de Serena Williams, donc Aaron, je sais plus son
Aaron
nom,
Williams.
Aaron Williams, donc le personnage d'Andy Samberg. Et il y a des vieilles photos truquées dans la famille des Williams avec la tête d'Andy Samberg de rajouter, et c'est volontairement mal fait. Et tout est comme ça dans ce film, c'est que. Tout est, tu vois,
assumé, quoi.
Ouais, c'est suffisamment con pour être drôle en fait. C'est ça tout du long du film. J'ai vraiment beaucoup rigolé en voyant ce film.
Ouais, c'est ça. Et puis la fin en apothéose, moi, ça m'a. Je trouvais que c'était la meilleure fin qu'ils pouvaient faire avant le mockumentary.
Ouais, tu te dis comment ils vont s'en sortir pour faire une conclusion à cette vanne, et ils le font très bien. Ouais.
Ils le font très bien, quoi. Et avec tout, il y a tout. Il y a même la reine d'Angleterre, il y a tout. Moi,
La vraie, elle est en face cam et tout. Elle fait un bon fuck des familles à un moment. C'est la reine d'Angleterre.
Non, ouais, on la connaît, hein.
On la connaît. Mais là, c'est pareil. Moi, dès que je vois la reine d'Angleterre dans un film, faut déjà avoir des bollocks parce qu'en fait, tu peux pas tellement parler de la reine d'Angleterre. C'est compliqué. Après, c'est pas non plus comme dans des états totalitaires, mais c'est dur de rigoler du code de la reine anglaise.
Et puis, il y a aussi un truc. Alors, je sais pas si je peux en parler, mais c'est bon. À un moment, le personnage principal part en Suède, mais. C'est du racisme, mais ouais. Il dit rien. Enfin, je veux dire, il fait semblant de parler suédois, il baragouine, il fait du gromelot.
Ouais, ouais.
Mais qu'est-ce que c'est drôle de voir à quel point Andy Samberg gère le truc en mode c'est très sérieux. Et voilà. Et
bah, c'est de l'humour années 80, un peu ouais, de Zaz, un peu.
C'est ça.
Ah, complètement.
Oui, très assumé, très loufoque, très borderline
ouais,
aussi. Mais...
Ouais. Mais ça passe parce que. Il l'assume, c'est juste drôle, quoi.
Putain, c'est comme on dit. Donc, il se trouve que dans notre épisode sur les films de ping-pong, on avait fait Ball of Fury.
Ouais.
Et en fait, on trouvait que l'acteur principal portait pas assez le côté déjanté du personnage. Et là, bah, on a Andy Samberg qui est un mec, bah voilà, il est à 100% en fait quand il fait ça.
Mais c'est pas un faux Jack Black, Andy Samberg.
Non, c'est pas un Jack Black Eco Plus, c'est Andy Samberg. Et du coup.
Non, c'est un vrai Jack Peralta.
Ouais, voilà. Mais ce mec, il est, ouais, voilà, si vous connaissez pas la série Brooklyn Nine-Nine, ou alors Parks and Recreation, c'est un gars qui, visuellement, fait passer énormément de choses, et là, tu lui confies un personnage comme ça, mais ça paraît con et ça paraît facile, mais en fait, peu d'acteurs peuvent incarner à ce point-là, rendre crédible l'incrédible, quoi. Et rendre crédible l'incroyable, surtout. Hein, c'est ça, incrédible, ça n'existe pas. Mais c'est un élogisme intéressant. Ouais, ça passe.
Ça me touche.
Ma question d'ouverture sur le film, comment rire des codes d'un sport? Parce que là, ça rit du doc, de la façon de faire un documentaire sur le sport, mais ça rit énormément du tennis. Moi, je trouve que c'est dans la façon de faire les personnages, parce qu'on rigole du fait que, bah voilà, un sportif parfois n'a pas grand chose à raconter, et que c'est un sport de gentleman, et du coup, ça rigole de tout ça, et parce qu'on a un 100% de non-gentleman. Et je trouve qu'en mettant des situations qui n'arrivent pas dans ce sport, on rigole bien des codes du sport. Je sais pas si vous avez d'autres.
Ouais, mais aussi en parodiant des. En fait, les joueurs, et surtout même en tennis, mais en fait dans tous les sports, ont vraiment des particularités, en fait. Et du coup, tu peux vraiment les parodier. Et je pense qu'en passant par la parodie, tu reconnais tel ou tel joueur qui s'énerve sur le terrain ou qui va être gentil tout le temps, juste qu'il va rien dire en interview.
Ouais, la perruque, c'est Agassi, par exemple.
Ouais, ouais complètement.
Non, mais voilà, avec beaucoup de second degré, bah...
C'est vrai qu'il y a des clins d'œil, en fait, hein, au tennis aussi, c'est un bon moyen de
parodier. Non, mais c'est ça, c'est forcément, enfin... Mm. Je pense que c'est en passant par là qu'on arrivera
Ouais, ça marche bien. Et bah, le tennis, c'est un sport simple, mais ils arrivent bien à jouer sur aussi ce côté de faire des échanges incroyables dans tous les sens. Ouais. Tu vois, genre, à un moment, ils sont à la volée pendant 5 minutes de film, ça n'arrête jamais.
Ouais, c'est exagéré au
possible.
C'est
la scène à rallonge que tu vois dans les films débiles et autres, mais...
C'est du zaz, quoi, tu vois, c'est très visuel.
Ils tombent, puis ils retombent, puis ils lancent les raquettes et tout ça, jusqu'à ce qu'ils soient au bord de l'épuisement, mais tu sais que... Ils ont arrêté la scène pas parce qu'ils avaient rien d'autre à monter, c'est juste qu'ils étaient arrivés au moment où les acteurs eux-mêmes se sont jetés au sol en disant bon, on arrête, on est assez dans la bobine.
C'est extrêmement long. Ouais.
Et juste ça, voilà. Mais je pense qu'un sport, il est facile à faire passer quand il est simple, donc plus il est simple, plus on peut en rire aussi.
Voilà, donc clairement, en plus, on pose les bases de l'absurde, hein, donc on y va à fond, rien que le synopsis, un match qui dure 7 jours, si vous voulez savoir pourquoi ce match dure 7 jours, regardez Seven Days in Hell, il est disponible du coup sur OCS, hein, voilà, si vous avez
OCS. C'est le temps d'un épisode de série. Hein.
Allez, voilà, c'est le temps d'un épisode de série, et sinon il est disponible en location, je crois, ou en achat, voilà, parce qu'il est dur à trouver quand même, hein, donc si vous avez OCS, c'est tranquille, mais n'hésitez pas à dépenser, à raquer un petit peu pour voir ce documentaire, parce que c'est assurément une partie de plaisir, hein, comme j'aime le dire. Non, mais clairement, moi j'ai passé un super moment en le voyant. On passe au troisième film de la sélection, Terre battue, de Stéphane Desmoustiers. Résolu à ne plus travailler pour d'autres, Jérôme cherche à monter sa société coûte que coûte, et ce malgré les réticences de Laura, sa femme. Hugo, leur fils de 11 ans, joue au tennis et veut devenir champion. Pour cela, il lui faut intégrer le Centre National d'Entraînement à Roland-Garros. Comme son père, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Ensemble, Hugo et Jérôme vont apprendre qu'on ne peut pas contourner toutes les règles pour réussir. Ma question anecdote sur le film, qui a coproduit ce film de Stéphane Desmoustiers ?
Les frères Dardenne.
C'est les frères Dardenne, voilà. Et ça se sent beaucoup. Il y a la patte.
Il y a Olivier Gourmet.
Il y a Olivier Gourmet déjà. Quand tu as Olivier Gourmet, tu peux être sûr qu'il y a les frères Dardenne qui sont pas loin pour renifler ce qui se passe.
Ça se passe à Villeneuve-d'Ascq.
Ça se passe à Villeneuve-d'Ascq, ouais.
Et puis il vérifie bien qu'il lui arrive des bricoles, je pense, les frères Dardenne.
Ouais. Tu vois, Olivier
Gourmet. Il y a des bricoles.
Dans un scénar.
C'est vrai que quand tu prends Olivier Gourmet, ils disent toi, tu vas en chier, toi.
Toi, il va t'arriver des.
Là, la bricole principale, c'est qu'il se fait virer d'un Deviane.
C'est vraiment une bricole du nord de la France, quoi.
Ouais. C'est génial. Alors nous voilà, on est du nord.
Il faut connaître Villeneuve-d'Ascq.
Ce film s'est tourné juste à côté de chez nous, ouais. Et on voit le centre de Auchan V2. Alors c'est pas Vélizy 2 pour les Parisiens qui nous écoutent, c'est Villeneuve-d'Ascq pour nous.
Connaître les zones commerciales du nord.
Alors, clairement, il y a le Deviane d'Auchan V2, mais alors je l'ai jamais vu aussi bien mis en image, ce Deviane.
Et pour avoir bossé là-bas, il est bien mis en image.
C'est vrai.
Ouais.
T'as vendu du fringos, toi ?
Non, j'ai pas vendu du fringos, j'étais en manute.
Ah, manute, bah...
En manutention.
T'es encore en manute aujourd'hui dans ton métier.
Ouais, c'est vrai, mais à l'époque, avant de faire mes études, je faisais de l'intérim, et j'ai bossé à Deviane.
Il faut bien faire ça pour s'en sortir, mais c'est peut-être à cause de toi qu'Olivier Gourmet a perdu son poste de directeur chez Deviane. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce film autour de la table ? Bah, peut-être Antoine, pour continuer là-dessus, est-ce que t'as passé un bon moment ? C'est du cinéma réaliste, pour le coup, hein. C'est une volonté, en tout cas.
Ouais, je me suis un peu ennuyé, j'avoue. Ouais. J'avoue que j'étais... En fait, j'ai pas réussi à m'accrocher au personnage autant que je le voulais, parce que je trouve qu'il est très saccadé, et je comprends, c'est aussi le but du réalisateur, de nous montrer autant le père que le fils.
Ouais.
Mais parce qu'ils ont chacun, effectivement, leur combat, leurs objectifs, leurs inquiétudes, mais les deux...
Alors, le père, c'est faire une franchise de chaussures financée par Deviane.
En gros, le père, c'est retrouver une stabilité de l'emploi, et le fils, c'est poursuivre sa passion. Ouais. Voilà.
Et non, il a plus envie d'avoir des connards au-dessus de lui.
Ouais, c'est ce qu'il dit.
Ouais, c'est ça. Et je pense qu'en fait, c'est pas deux schémas narratifs qui peuvent bien se mettre en parallèle l'un à côté de l'autre. Je pense que c'est intéressant d'en traiter soit l'un, soit l'autre, mais entrecouper les deux, pour moi, ça, à chaque fois, ça me fait ressortir, et du coup, je perds l'empathie pour chaque personnage,
ouais.
À chaque fois que ça arrive. Et ce qui fait que le tennis, qui prend effectivement une part un peu plus importante à la fin, pour moi, me semble un peu désuet et dérisoire.
Ou accessoire, tu veux dire
enfin... Ouais, accessoire totalement. Mmh. C'est-à-dire que... Oui, donc je comprends que dans le cinéma réaliste, effectivement, t'as toujours ce côté que bah, les emmerdes, elles arrivent jamais toutes seules, et t'en as un peu partout et tu peux pas tout gérer, tu vois. Et c'est sûrement ce que Stéphane Desmoustiers veut montrer par là. Mmh. Et il montre que la vie, c'est chiant, c'est compliqué, que rien ne se fait comme on veut, et quand ça va pas, ça va pas, et qu'il y a des pressions sociales de tous les côtés, et qu'il faut quand même s'en sortir, et que parfois, faut sortir les doigts du cul et faire les choses soi-même, mais ça marche pas, il faut quand même... Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, c'est des personnages qui se noient chacun l'un par l'autre et chacun il se tire vers le bas. Donc j'avoue que ce film, au final, il m'a touché. Il m'a touché, mais...
Parce que là, ce que tu dis, ouais, j'ai l'impression que t'as aimé.
C'est pas que j'ai aimé, c'est que je suis tellement tristoun après avoir vu ce film, tu vois. Ça m'a rendu triste et j'ai trouvé ça... Voilà, c'est peut-être que... Je pense que c'est un très bon film au final, mais que j'étais peut-être pas dans le mood pour le voir ou que ça a touché quelque chose en moi qui m'a rendu triste. Et du coup, c'est pas un film que j'ai envie de revoir, du coup.
Ouais, mais ça reste en plus un cinéma qui est le cinéma, c'est l'anti-blockbuster au possible. Donc c'est le genre de cinéma qui veut. Mais c'est proche, de toute façon, si vous aimez les frères Dardenne, vous pouvez aimer Terre battue.
Il y a un Devian dans le troisième Avengers.
Ouais, si c'est vrai, c'est pas.
Pour exploser,
pas
mais.
C'est vrai, ça, j'avais oublié ce moment-là. Ouais. C'est une franchise qui est très présente dans le cinéma américain, de toute façon, Devian. Mais c'est un film. Qui est en fait, moi, ce qui m'a gêné, j'ai bien aimé ce film parce que moi, c'est le genre de cinéma que j'aime plutôt bien. C'est juste des projets, des fois, j'ai du mal à comprendre comment ils peuvent voir le jour parce que ça.
C'est inspiré de faits réels.
Ouais, c'est inspiré de faits réels. Ça, j'ai vu.
Mais en fait, il n'y a pas de carton au début pour expliquer que c'est inspiré de faits réels. Moi, je l'ai su vraiment en faisant la recherche.
Je dis, ouais, ce genre de projet, j'ai du mal à comprendre comment ça peut voir le jour. Moi, il y a un truc, moi, j'adore au cinéma quand on cherche la normalité. Là, je trouve que des fois. Dans certains dialogues et dans le profil du personnage principal, ça singe un peu la normalité. C'est un peu ce truc des entreprises que je déteste dans les films. C'est genre où tu dis je veux le dossier Berthier sur mon bureau demain matin. Tu vois, quiconque est allé en entreprise
là-bas.
Ouais,
mais là, c'est le papa des années 90, hein, Olivier Gourmet. Hein. Il bosse chez Devian, il a ses réflexions un peu sur le chômage.
Non, mais c'est proprement montré, mais des fois, on franchit un petit peu cette frontière de singer la normalité, je trouvais. Ce qui me fait rire avec Olivier Gourmet, c'est que ce mec, que tu lui files ce rôle-là, ou que tu lui files le rôle de Bruce Willis dans Die Hard, il va garder la même intensité, toujours à fond dedans, Olivier Gourmet. Et ça me fait délirer parce que là, il...
Attends, j'arrive pas Olivier Gourmet dans Die Hard.
Mais ce serait possible. Le mec te parle de logistique comme s'il devait démanteler
un réseau de drogue.
Quoi. Et c'est ça qui est ouf avec cet acteur quand même, c'est que j'ai envie de dire, tu lui donnes n'importe quel rôle, il est à donf.
Je l'adore.
Il est excellent. Mais moi, j'ai plutôt passé un bon moment devant ce film, c'est juste que ça m'a fait rire parce que, si tu veux, c'est toujours pareil. Moi, comme je dis, moi, j'aime bien avoir la normalité au cinéma, mais des fois, ça allait la chercher tellement loin dans des dialogues ou dans des persos. Je sais pas, il y a un moment, il y a une soirée où t'as Olivier Gourmet qui balance son avis sur les femmes parce qu'il s'est fait larguer, quoi. Et il a un pote que, bon... T'as pas envie d'être avec ce pote là, quoi. C'est un espèce de serbe.
Il sert à rien.
Tu sais pas trop, ouais, voilà. Mais il est gentil, tu vois. Mais tu te dis, oh putain, mais est-ce que j'ai envie de voir ça dans un film? Parce que, bon, ils ont clairement l'air de pas s'amuser.
Il force son fils à dessiner une bite sur le bâtiment.
Sur une médiathèque.
C'est ça, mais à quel moment tu forces ton fils à commettre un délit, quoi?
Oui, mais on en est pas là, mais ouais.
Ça, c'est mes réflexions à moi, tu vois.
C'est vrai.
Mais tu vois, des fois, tu vois, il y a des films, c'est la chute d'un homme. Là, c'est la semi-chute d'un homme.
C'est une chute de cheveux, quoi.
Ouais. c'est un peu trop l'âne, ouais. Tu sais pas trop où se situer ce film, mais ça reste un film parfaitement géré. C'est pour ça que Stéphane Desmoustiers, dont on a parlé pour La fille au bracelet, est un mec qui voit sa carrière au cinéma continuer parce que, clairement, c'est parfaitement maîtrisé ce qu'il a voulu faire.
Ouais, c'est hyper bien fait. Et ça commence comme un film social, quoi. C'est très... c'est dur, hein. Au début, tu dis, wow, Olivier Gourmet encore. Il est viré, il n'y a plus de boulot.
C'est un peu le...
Son fils l'aime pas trop, j'ai l'impression. Mais ouais, je sais pas, tu prends d'affection, mais Olivier Gourmet, moi, je le trouve hyper touchant dans son jeu. Il a un truc de très juste. Après, le gosse, je le trouve un peu insupportable. Mais en même temps, c'est un vrai gosse de 9 ans, quoi.
Donc, c'est un vrai... Ils ont pris un mec qui faisait du tennis, en fait.
Parce que tous les gosses de 9 ans sont pas insupportables.
Non, mais ça se voyait qu'il savait jouer au tennis et autres. Il faisait des petits tours avec sa raquette dans la main.
Il maîtrisait.
J'ai du mal avec les enfants qui maîtrisent un truc. J'ai du mal avec les enfants qui chantent, enfants qui font du sport à haut niveau, qui se la racontent un peu.
Tu veux laisser l'enfance à l'enfant.
Ouais.
Tu laisses l'enfant vivre son enfance.
Et donc les choristes et autres, ça passe pas.
Ouais, les choristes, ça va. Non, mais dans la vraie vie.
Ah, dans la vraie vie.
Donc là, comme ça paraît très, très réel, ça peut déranger. Ouais. Bon. Bref, j'ai passé un bon moment.
C'est pas qu'un enfant qui veut faire du tennis, c'est pas qu'un père qui est viré, c'est que le film va prendre une tournure un peu plus dramatique à la fin sans vous le dévoiler, quoi.
Alors, on s'y attend pas du tout. Je trouve qu'on s'attend pas du tout à cette fin dramatique. Justement, tu suis ce père qui se bat pour essayer de... Après, c'est un peu un Joe la bricole, quoi.
Ouais.
Sa femme s'en fout de sa gueule. Elle en a marre qu'il lui rapporte des chaussures tous les mois à la baraque. Enfin, c'est
horrible.
Ouais.
Tu te dis quand
il est tellement content, il a son projet. il lui parle tout le temps de chaussures, mais enfin, au bout d'un moment.
Il arrête pas de dire, ouais, je fais ça pour te rendre heureux, je fais ça, et on se rend compte qu'il a pas du tout la clé pour rendre sa femme heureuse, quoi.
Mais je trouve, il y a, comment on a une scène qui veut tout dire, vraiment la scène avec son pote au bar, où il lui montre la chaussure et il lui explique, non, ça, tu vois, ça, c'est du vrai cuir, ça, regarde, ouais. sans, il fait sentir la chaussure à son pote. Il y a un truc, il est tellement à fond.
Et ça, c'est la sueline. Ouais. On dirait du dinde, mais c'est la sueline.
Il a des œillères, quoi, en fait, et il suit son truc.
Ouais.
Et pendant ce temps-là, son fils cartonne au tennis, et en fait, il s'en rend compte limite qu'à la fin, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc,
je passe à côté.
Pour ça, alors, vu que c'est inspiré de faits réels, je sais pas trop comment était l'histoire à la base, mais, pour ça, je trouve que c'est un peu décousu parce que t'as deux histoires qui à la fin se rassemblent, mais tu passes quand même un bon moment. Je trouve que l'interprétation d'Olivier Gourmet est vraiment bien passable, quoi. Enfin, c'est très touchant.
Ouais, on arrive finalement à s'intéresser à cette histoire, mais voilà, c'est un film. Encore une fois, si vous aimez le cinéma des frères Dardenne, foncez sur ce genre de film. Tout simplement, c'est un cinéma qui existe, qui est là, un cinéma plus réaliste. Ma question, justement, sur le film, montrer le tennis doit-il forcément être épique pour capter l'essence de ce sport ? Parce qu'on a pas mal parlé de sport pro, et là, on voit un enfant faire des matchs en interrégional plus classique. Est-ce que on a forcément besoin de ça ? Et peut-être qu'on va faire appel à nos refs pour répondre à cette question. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Pour moi, par exemple, rien que montrer la difficulté d'essayer, espérer devenir pro et du coup la difficulté d'un match, ça montre aussi une partie du tennis moins dans les paillettes qui est intéressante, quoi.
Ouais, c'est sûr. Non, mais là, je trouve que c'était assez bien filmé. Je trouve que tu sens la rage des deux enfants sur le terrain et non, mais c'est ça aussi. En fait, il faut sentir que même au-delà des enfants, ils ont des sentiments, ils les expriment sur le terrain et je trouve que dans ce film-là, c'est plutôt, enfin, les matchs, en tout cas, sont plutôt bien filmés. Après, ça reste des gosses, hein, donc.
Non, mais t'as cette notion de sacrifice parce qu'on dit, si tu gagnes ça, je déteste les gosses. Si tu gagnes ce tournoi, eh ben, t'iras en sport-études à Paris, donc tu t'isoleras de ta famille, donc ça montre déjà une part du sport, quoi, une part du sacrifice. Quoi.
Sacrifice, ouais.
Bah, je pense que, ouais, le tennis, est-ce que ça a vraiment besoin d'être épique? J'ai envie de dire non, mais en fait, ça peut être filmé de manière très épique quand ça veut être fun, parce qu'au final, le tennis, c'est déjà un sport qui est médiatisé, tu vois. Si tu veux voir, effectivement, aujourd'hui, tu regardes un match de Djokovic, de Federer, de Nadal, t'en as du épique, hein, et des Français aussi, hein, de Tsonga, mon fils. Honnêtement, tu peux clairement voir de magnifiques matchs de tennis, c'est rediffusé, c'est vu par des millions de gens, tout le monde adore, mais au cinéma, du coup, refaire des matchs de tennis sans les acteurs, et du coup ça demande forcément une préparation, mais ils sont jamais aussi spectaculaires que la réalité, donc je pense qu'effectivement les enfants c'est un bon moyen, parce que t'es sur de la graine, quoi, c'est en train de germer, donc forcément il y a des erreurs et autres, mais tu vois, comme le disait Tristan très bien, cet esprit de compétition, cette rage de vaincre qui les pousse, et effectivement c'est intéressant. Je pense que ouais, le voir l'évolution du sport, de la jeunesse dans la compétition, c'est peut-être ça, parce que c'est là où les passions naissent, quoi, où ça
sent la salle de sport, quoi. Ouais, tu sens le samedi matin, ça, tu te réveilles pour aller conduire, quoi, ton enfant au tennis club de Fleur B avec Jersey. Voilà, exactement. Allez, ma question classique, si vous ne deviez retenir qu'un film dans cette sélection, on a, moi, je trouve plutôt une jolie sélection par rapport au thème. À la base, on faisait ça un peu pour la vanne, mais au final, on a déjà pas mal de choses à dire. Et clairement, moi, j'ai passé un bon moment en préparant cette émission. Quel film on retient, Antoine ?
Seven Days in Hell.
Tristan ?
Borg McEnroe.
Borg McEnroe.
non, Terre battue.
C'est vrai ?
Péloche.
Ok,
péloche.
Oui, mais tu prends Borg McEnroe.
Bah, moi, je prends Borg McEnroe, et vraiment, parce que j'ai vraiment aimé ce film. Très bonne surprise. Donc, bah voilà, bah, regardez les trois, les gars.
Bah, voilà, les trois.
Les amis, si vous avez vraiment cool, que ça à foutre.
Le tennis, c'est un chouette sport.
Bah, c'est un chouette sport, en tout cas, qui se porte bien au cinéma. C'est un bon sujet de cinéma.
Le tennis de table est très bien aussi. Hein.
Ouais. Mais bon, si on doit faire un petit classement, peut-être que le tennis va quand même au-dessus. On va faire un classement des sports. Hein. De toute façon, je vous dis, prochaine émission sur franchement, le film de squash, j'adorerais qu'on trouve. Je suis sûr qu'il y a moyen.
Oh, il y en a.
Je suis sûr qu'il y a moyen.
Il y a beaucoup de scènes de squash dans beaucoup de films.
Ouais, mais il faut que ce soit central. Hein.
C'est encore des blancs riches, vieux.
Bien sûr. Ah ouais, là, clairement.
Il y a même un épisode de Le Caméléon où Jarod, il fait du squash.
Vous êtes vraiment médecin ? Oui, pour la journée.
Ah, j'ai pas du tout.
Voilà. Ouais. Du coup, ça parlera aux aficionados de la
Trilogie du samedi.
Ah oui, d'accord. Ouais. Moi, j'étais pas mal. Alors, non, j'avais pas le droit de regarder la télé le samedi soir. Je devais être prêt mentalement pour faire mon cours de tennis ou mon match. J'avais interclub le dimanche. Ah, c'est ça, la vie de tennisman.
De sportif.
Allez, maintenant que j'ai pas compris cette ref, on va passer à nos refs en film de tennis avec l'avant-dernière séquence de l'émission, le You Fuck My Wife.
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Le You Fuck My Wife, donc après avoir vu trois films de tennis récents, nous allons nous intéresser à nos références autour de la table. Quels sont vos films de tennis de référence et pourquoi? Peut-être Tristan, pour commencer?
Alors moi j'ai noté La Famille Tenenbaum,
ouais.
Avec le Luke Wilson qui joue au tennis et qui ressemble de plus en plus à Bjorn Borg,
ouais.
Mais oui.
Au fur et à mesure du film. Et c'est pas centré autour du tennis. Hein,
non, mais cet arc-là du film...
De toute façon, dans mes références, franchement, c'est pas des films centrés autour du tennis. Hein. Clairement, c'est plus des scènes anecdotiques ou même qui font bien partie du film. Donc ça, de Wes Anderson, Match Point,
évidemment.
Woody Allen.
Évidemment, où là, pour chef le coup, on vient... Bon, c'est, pour certains, c'est vu comme artificiel et pour d'autres, c'est plutôt bien senti, mais on utilise la figure de la tension du tennis pour parler d'une toute autre histoire. Et...
Ouais, c'est centré autour des personnages. Le tennis, c'est vraiment...
Ouais.
Ça sert l'histoire, mais...
Et ça la conclut aussi.
Exactement. Et j'ai vu, du coup, pour le podcast, j'ai pas vu le film de la sélection, mais j'ai vu Un éléphant, ça trompe énormément. Et j'ai adoré voir ces quatre potes dans les années 70 jouer au tennis. Avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos et Victor Lanoux. Et c'est de Yves Robert et c'est génial. Il y a une suite qui s'appelle Nous irons tous au paradis.
Ouais.
Là aussi, il y a du tennis. Et pour le coup, je trouve que les matchs de tennis veulent tout dire. C'est vraiment, ça dépeint une époque et ça dépeint vraiment cette bande de potes. Tous blancs aussi d'ailleurs, Antoine. Je pense que le tennis...
Oui, sport de blanc.
Au cinéma. Et non, c'est génial, j'ai adoré. C'est vraiment, c'est plein de nostalgie, quoi. C'est hyper touchant.
Avec voilà un casting malheureusement qui aujourd'hui ouais. N'est quasi plus sur Terre. Regardez ce film, c'est qu'il y a vraiment un classique du cinéma français. Je crois que Béatrice.
Ouais, elle en a déjà parlé. Ah, bien sûr, je crois qu'elle en a déjà parlé. Ouais.
Vas-y Antoine, tes références.
Eh ben écoutez, j'ai globalement les mêmes que vous tous. Battle of the Sexes. Un éléphant, ça trompe énormément. Mais je voulais aussi parler de Prince of Tennis.
Ah oui.
Voilà, Prince of Tennis, donc qui est un manga à la base et qui a eu le droit à son live action en 2006. Donc, comme tous les mangas de sport, c'est exagéré au possible. C'est-à-dire que c'est des joueurs de tennis normaux, mais qui ont des super pouvoirs, quoi. C'est-à-dire, ils peuvent avoir des pouvoirs télékinésiques, ils peuvent invoquer le vent et la foudre, voire
c'est pas juste du Olivier Tom où le ballon, la balle est ovale, quoi.
Ouais, non, là, c'est limite, t'as l'impression qu'ils ont réellement des pouvoirs, mais en fait, non, c'est plutôt comme Olivier Tom, quoi. C'est dans leur tête. C'est dans leur tête d'enfant. Et du coup, c'est très drôle de le voir en live action, parce que c'est des vrais acteurs. Et du coup, des effets 3D un peu moches. Et surtout, un scénario, un peu naze. Un peu nul à chier, mais qu'est-ce que je me suis marré, quoi. C'est vraiment une série Z, quoi. C'est même pas une série B, c'est vraiment en mode série Z. Tout est exagéré. Il y a des mecs qui agressent des gens avec des raquettes de tennis et du coup ça finit en combat de match de tennis. Tu vois, je trouve ça génial. Et surtout le truc le plus fou, c'est que durant tout le film, t'as des scènes de tennis de fou. Et le dernier match, les derniers points, bon, c'est du tennis normal entre deux enfants, quoi. Et je trouve c'est génial parce que à la fois ils se prennent très au sérieux parce que tous les personnages font à fond et tout, limite ils se pètent un bras, c'est la fin du monde. Ils se pètent un bras parce qu'il y a 12 000 rebonds d'une raquette qui rebondit entre trois spectateurs avant de leur arriver dans le bras, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais voilà, c'est le côté ultra. Tu vois, tu veux faire des. On parlait du tennis, est-ce que ça a besoin d'être épique? Là, tout est fait pour que le tennis soit épique. Et en fait, le moment le plus marrant et le plus sympa de tous, c'est quand ils finissent par juste faire un match normal entre deux gars.
Dans la vraie vie, en fait, c'est nul.
Dans la vraie vie. Et tu vois, c'est
dans la vraie vie, c'est Thomas à Capingame.
Ouais, à Thomas de Capingame. Et je suis allé en 8e de finale quand même.
Voilà. Ouais, t'avais 35 de handicap quand même, hein, pas mal.
35 de handicap, le mec qui a pas du tout les notions de tennis. 35, ça va, handicap. On n'y est pas. Non, j'ai malheureusement pas réussi à être 35. Donc tu vois, vraiment, en 7 ans de tennis, c'est pour une grosse perf de pas réussir à être classé. Voilà. On est bon sur nos références ?
Ouais, voilà.
Voilà. On est d'accord que là, j'ai absolument aucun lancement pour...
Tu veux que je t'en fasse un ?
Non, mais j'allais dire que je te donnais la balle au
35 de handicap, oui, le handicap, ça me connaît.
Ah bah voilà ! Allez, pilule bleue, pilule rouge. Une vanne handicapophobe.
Oui, mais c'est moi qui me l'ai fait à moi-même. Et j'ai le droit, je suis handicapé.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
Alors... Le lourd handicap.
Silence sur le cours. Aujourd'hui, nous recevons deux joueurs.
Il prend même pas de voix alors que l'arbitre, c'est facile à faire.
15-0.
Les joueurs sont prêts.
Tu fais tellement. Les joueurs sont prêts. 2 heures, baron, match, c'est parti. Alors,
chut, s'il vous plaît.
Pour ce jeu, vu que nous parlons du tennis, vous allez être opposé face à des jeux de mots. Des jeux de mots sur le tennis. J'ai pris deux mots du tennis, à savoir set et match. Parce que c'est ce qu'on entend à la fin.
D'accord. Je crois que je ne me laisserai jamais de ces sons.
Alors, donc, j'ai mélangé 7 avec des films et match avec des films, évidemment. Il y aura 5 jeux de mots à trouver. Alors, pour rappel, 7, c'est un ensemble de jeux au tennis ou un objet qui sépare la vaisselle de la nappe pour ne pas la salir.
Le fameux 7 de table, c'est celui-là. Hein. Okay.
Et match, c'est un ensemble de 7.
De table.
Oh.
Et un match, c'est un ensemble de 7. Ou un commerce de proximité que vous devez connaître. On a tous déjà entendu cette phrase. Je reviens, je vais au match, j'ai vu une promo sur les cornichons.
C'est vrai qu'on l'a entendu celle-là, régulièrement.
Voilà, très régulièrement. Donc, on est parti.
Est-ce que, si je puis me permettre, là, c'est un vrai duel, Tristan et moi, là.
C'est un face à face. C'est un vrai duel. Et je compterai les points d'ici 5 mois. Donc, attention, soyez au taquet. Alors...
Olé.
C'est... Je déteste ces mecs-là. Et quand c'est des gosses qu'ils font, mais je veux les claquer, quoi.
Alors, c'est le Love Story britannique qui affronte des zombies avec des sets de table.
Ah ouais. Mais...
C'est une série britannique, très très cool. Donc, des gens dans une... Je sais pas si vous voulez... Quand même très connue. Fin des années 2000. En gros, une apocalypse zombie arrive, mais eux, ils sont encore dans la maison des secrets. Et...
Ah, je l'ai pas aussi.
Ah, c'est Dead Set.
Ok.
Et du coup, c'est un point. Faute. Faute de l'arbitre.
J'aurais dû me prendre un faux. Je peux te faire un faux de Norman, mais j'ai que ça. Égalité.
C'est Scarlett Johansson qui séduit le prof de tennis du coin dans un commerce de proximité.
Match point.
Match point, très bonne réponse.
Ah, y a pas de jeu de mots. C'est match. Ouais.
C'est les films de tennis, j'ai fait ça en sortant du taf. C'est Will Smith dépressif qui ne sait pas quoi faire de ses 7 sets de table.
Et un partout.
Ça doit être ça à chaque fois parce que c'est beaucoup plus drôle.
C'est deux potes de banlieue qui, pour sauver le bar familial, décident d'inviter tous les plus grands sets de table parisiens avec l'aide de Mike.
Jet set.
Bien joué.
Avec José Garcia, Bruno Solo et Samuel Le Billon.
Putain, je sens qu'on va finir en apothéose.
C'est Danny Trejo qui est pas content, qui tient le commerce.
Match CT.
Match CT.
Match.
Qui tient les...
C'est ça.
C'est Match CT. C'est Danny Trejo pas content qui tient le commerce de proximité du coin, ou un bocal de cornichon à 1,29€ au lieu d'1,44€. C'est vraiment une bonne affaire.
C'est fini ?
C'est terminé.
C'est vrai, t'en as pas d'autres ?
Non, c'est jeu, set et match, Thomas Dozer.
Ouais.
Ah, mets la bonne
Eh ben, n'empêche qu'on vous aura tenu une heure avec cette connerie. Et on espère que vous a donné envie de vous intéresser au sport de raquette, globalement. Oui, au sport, on va peut-être baisser cette musique hein, qui est insupportable. On espère qu'on vous a donné envie de regarder tous ces films-là. Je vais couper sec comme ça la musique. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Donc, dans 15 jours, on se retrouve pour une autre thématique. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, sur les applis de podcast, Podcast Addict, Deezer, Spotify, Apple Podcast.
Parlonspeloche.fr,
évidemment, où vous avez absolument... tous nos liens pour nous suivre, ça c'est pas compliqué. Si vous nous aimez, mais dites-le, qu'est-ce qui vous en empêche ? Allez sur iTunes et donnez-nous des étoiles, des commentaires, même n'importe quoi.
Sur
Sens Critique, mettez une critique si vous le souhaitez, une note sur Sens Critique, sur ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve dans 15 jours et en attendant, on essaye de se choper dans les salles obscures. Au revoir.
Au revoir. We'll be right back. Ah.
Putain, Jet Set, je savais pas si tu l'aurais.
Jet Set, bien vu. Oh, on était en forme. Finalement.
Ouais, donc c'est le
temps. On est parti, les amis.
Oui.
3, 2, 1.